This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Lovenbach, la directrice RSE et communication d'Ecotone, le leader européen de l'alimentation biologique et végétale, avec notamment les marques engagées comme Björg, Bunter et Alter Eco, que des marques qu'on connaît. Et tu me dis que tu en avais d'autres. J'ai hâte de savoir un petit peu en quoi consiste concrètement Ecotone, son histoire et toutes ces marques finalement. Salut Émilie.
Salut Alice.
Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bah alors raconte-moi un petit peu comment et quand aussi s'est construit Ecotone, comment ça a émergé
cette entreprise. Alors Ecotone, c'est une entreprise à mission française.
D'ailleurs, c'est devenu entreprise à mission tout de suite ou quand est-ce que
passé entreprise à mission. Ouais. On était historiquement Bicorp. On a été une des premières entreprises agroalimentaires européennes à décrocher la certification au niveau du groupe. Et en fait, on a opté pour les statuts d'entreprise à mission l'année dernière.
Qu'on a été et pourquoi ce choix d'ailleurs même d'une part d'être labellisé Bicorp et de deux, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me demandent est-ce que je me labellise ou pas, ça permet de rassurer le consommateur ou même en B2B de développer peut-être les deux hein.
Alors Bicorp, non, ça a été vraiment une démarche pour piloter, on va dire, notre démarche RSE. L'idée, c'est vraiment de se dire, on fait plein de choses en RSE, est-ce qu'on en fait suffisamment, déjà de valider la pertinence de notre plan d'action. Et ensuite, Bicorp, c'est un outil, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est extrêmement pragmatique. Ça vous dit clairement où sont vos points de force, où sont vos points d'amélioration et quelles pratiques vous devez mettre en place pour progresser.
Donc c'est vraiment même du pilotage en interne, ça aide vraiment à s'aiguiller,
à se
challenger quoi.
L'entreprise à mission, c'est plus d'un point de vue, c'est un petit cran plus loin, ça nous permet d'ancrer vraiment dans nos statuts d'entreprise, donc vraiment au plus fort de notre identité en tout cas, notre mission et nos engagements sociaux et environnementaux.
C'est quoi cette mission alors ?
Alors notre mission chez Ecotone, c'est de nourrir la biodiversité, c'est de faire grandir la biodiversité au travers de l'alimentation.
Et donc avec tout ce panel de marques engagées, j'imagine qu'elles ont chacune leur ADN entre Björg, Alter Eco, etc. Comment elles se sont définies en fait ? D'abord, autre question, j'ai plein de questions en fait. Est-ce que c'est des marques que vous avez rachetées ou que vous avez créées ?
Alors les deux.
mon général.
Voilà, il y a des marques qu'on a créées historiquement, par exemple Björg, et il y a des marques qui sont venues en tout cas nous rejoindre au fil du temps, typiquement Alter Eco. Donc, c'est des marques qui viennent compléter notre engagement. Ce qui fédère l'ensemble de nos marques, c'est cette mission d'entreprise, c'est le fait d'aller nourrir la biodiversité. Donc, chacune des marques est engagée en tout cas pour servir cette mission d'entreprise, mais chacune avec son ADN, son identité, sa petite touche en tout cas particulière, propre à la marque ou à son secteur d'activité.
Et vous avez combien de marques aujourd'hui ?
Alors, on a une trentaine de marques et on a vraiment une quinzaine de marques clés, phares, qui parlent vraiment aux consos et qui sont en capacité d'engager largement les citoyens sur nos combats autour de la biodiversité.
Et l'alimentation, donc c'est que des marques agroalimentaires ?
Ouais. Ouais, okay. Ouais.
Et aujourd'hui, est-ce que vous en recherchez toujours ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des marques qui peuvent, entre guillemets, postuler pour...
Alors oui. Oui, plus l'armée sera grande, plus on aura d'impact. Donc oui, en tout cas, celles qui pourraient en tout cas faire grossir les rangs, dans les critères, en tout cas, il faut qu'elles soient biologiques, végétariennes, et qu'elles aient des pratiques assez avancées en termes de RSE.
Et est-ce que chacune des marques, là, on prend l'exemple de Björg, parce qu'on a vu l'offre, alors j'ai l'impression que c'était quand même l'un des pionniers, Björg, quoi. Enfin, après, je ne suis pas si vieille, mais c'était un peu la marque enfin, qu'on reconnaissait par excellence, comme le sein, etc. Mais est-ce que la marque elle-même a évolué en termes de composition de produits, etc. Enfin, moi, j'ai vu que les listes diminuaient, les listes d'ingrédients diminuaient, il y avait moins de sucre, on essaye de répondre à plus d'intolérance aussi, au gluten, etc.
Alors, la marque, en effet, c'est une marque pionnière. Elle est née dans les années 80. Ça a été une des premières marques à introduire, en tout cas, l'alimentation biologique en grande surface, donc massivement auprès des Français, et à faire découvrir des produits comme les boissons végétales, les galettes de riz.
Je t'arrête là, parce que grande surface, est-ce que ça veut dire qu'on peut les retrouver aussi en magasin spécialisé ?
Non.
D'accord.
Non, Björk est exclusivement vendu en grande surface. Et on a des marques, par exemple, comme Bonne Terre, qui sont exclusivement vendues en magasin spécialisé. On a cette double compétence. En tout cas, on sert les deux circuits de distribution majoritaires en France.
OK.
Et donc, Björk est née dans les années 80, pionnière mais sur le bio, mais avec tout de suite cette, en tout cas, cet engagement pour une alimentation à meilleure qualité nutritionnelle. Donc, dès la création de la marque, qui avait été d'abord créée par une diététicienne, on a une charte nutritionnelle sur la qualité des ingrédients, donc les sucres non raffinés, les céréales complètes, voilà, utiliser les ingrédients les moins transformés possibles. La marque, elle a évolué sur une qualité nutritionnelle qui visait un peu plus à réduire, par exemple, la quantité de sucre, la quantité de sel dans les produits. Donc, elle est plus sur du quantitatif. Et puis là, elle évolue aussi sur, pour rejoindre en tout cas ce combat autour de la biodiversité, sur diversifier un maximum les ingrédients dans les recettes. Aujourd'hui, par exemple, on a 2/3 de notre alimentation qui repose sur 9 espèces végétales. Et aussi, aller plus loin d'un point de vue pratique agricole, à dépasser les standards de la bio pour aller faire grandir aussi la biodiversité dans les parcelles où sont cultivés nos ingrédients. Donc, on a tout un tas de projets sur les filières.
Et comment le groupe s'engage vis-à-vis de toutes ces marques ? Est-ce qu'il y a, enfin, finalement, puisque j'imagine que vous avez donc que chacune des marques a une politique, une dynamique, dirons-nous, RSE, responsabilité sociale et environnementale. Je préfère parler d'impact, mais on va parler de RSE. Mais le groupe lui-même a un socle solide sur lequel se reposent toutes les marques.
Exactement. Donc, le groupe, il a un socle et le socle, c'est cette mission. C'est cette raison d'être de nourrir la biodiversité. On a défini les engagements qui viennent soutenir cette mission. On a 3 niveaux d'engagement. Notre premier niveau d'engagement, c'est de protéger la biodiversité. Et pour ça, on s'engage à développer l'alimentation biologique et végétarienne.
Et à soutenir l'agriculture, non ?
Tout d'abord, c'est ces deux piliers-là qui sont pour nous fondamentaux. Parce que quand on parle de protection de la biodiversité, le bio, aujourd'hui, c'est un super modèle pour protéger la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui heurte en tout cas la biodiversité, c'est l'utilisation d'insecticides, fongicides, pesticides, bref, tout ce qui se termine en cides.
Mais pour développer le bio, il faut des agriculteurs bio. Donc, c'est plutôt ça, en fait, c'est là que va ma question. C'est que du coup, il faut les former, il faut leur donner les moyens de produire bio.
Oui, alors nous, on est en aval. Nous, en fait, on va stimuler la demande et on va du coup stimuler la production amont, en fait.
OK.
Voilà, donc nous, notre objectif, c'est vraiment de promouvoir l'alimentation bio, de donner envie aux Français de changer leurs habitudes alimentaires pour le bio et ainsi, en tout cas...
De tirer
la filière et de faire grossir, en tout cas, la quantité aujourd'hui d'ingrédients produits en bio.
Et donc, là, c'était le premier ?
Ça, c'est le premier engagement, protéger à travers une alimentation biologique et végétarienne. Le deuxième engagement, c'est d'aller au-delà de la protection, c'est de faire grandir la biodiversité. Et ça, on le fait de deux manières. En diversifiant les espèces végétales présentes dans nos recettes, on a 2/3 de notre alimentation qui repose sur 9 espèces végétales.
C'est lesquelles, d'ailleurs, ces 9 ?
Alors,
la patate.
Voilà, exactement.
L'importante.
La patate, le riz, le maïs, le blé, l'huile de palme.
Et le blé, d'ailleurs, ça, c'est un
sujet. Omniprésent.
Encore l'huile de palme ?
Ouais.
Oh là là, mais je pensais qu'on avait réduit ça.
Non, on a une tendance à réduire, mais c'est un ingrédient qui est extrêmement
présent. C'est bien de le redire, parce qu'on voit tout le temps partout l'huile d'olive. Tout maintenant, on a l'impression que c'est l'huile d'olive. Et en fait, non, ça reste l'huile de palme.
Ouais, ça fait partie des 9 espèces les plus consommées. Ouais. Voilà, donc l'idée, c'est de proposer des alternatives à ces 9 espèces. Et en parallèle, c'est de faire grandir aussi la biodiversité dans les champs, là où sont cultivés nos produits, nos ingrédients. Et là, on va chercher à dépasser en fait, les standards de la bio pour aller proposer des pratiques agroécologiques qui vont plus loin en termes de biodiversité. Ça peut être, par exemple, des rotations longues, la couverture des sols. Les rotations longues, par exemple, une rotation de 7 ans, ça veut dire que sur une parcelle, elle ne reverra pas la culture. La même culture avant 7 ans.
Ok.
Entre-temps, il va y avoir...
Pour laisser le sol se régénérer, non ?
Exactement. Entre-temps, il va y avoir, j'en sais rien, vous cultivez de l'épeautre, l'année d'après, vous allez cultiver de l'avoine, vous allez laisser reposer avec de la luzerne, etc. Donc, vous allez faire tourner, en tout cas, un certain nombre de cultures. Et 7 ans plus tard, vous allez de nouveau cultiver.
C'est la minute Fred et Jamie, c'est pas sorcier.
Non, mais c'est vrai que ça, c'est ça.
C'est important de comprendre aussi comment ça marche.
Et donc, ces pratiques-là, en fait, elles vont favoriser davantage de biodiversité, soit dans le sol, comme on vient de le voir. Aussi, ça peut être, par exemple, alors pareil, je vais faire le Fred et Jamie, le développement d'infrastructures agroécologiques. Ça, c'est un grand mot pour dire, en fait, de réintroduire sur la parcelle tout ce qui va servir, en fait, à abriter la biodiversité. Les haies autour des parcelles.
Les ruches. Pour le miel.
On pourrait en faire. Les bandes enherbées entre deux rangs de culture, les bandes fleuries. Tout ce qui va permettre d'abriter, en tout cas, la biodiversité sauvage sur la parcelle ou autour de la parcelle. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de refaire venir la biodiversité dans les champs.
Qu'il n'y ait pas de pénurie, en fait, en termes de matière. Et puis, surtout aussi, la richesse des sols. J'imagine que tout ça, c'est lié. Hein.
Voilà. En fait, qui dit plus de biodiversité, dit plus de services écosystémiques aussi rendus, dit de meilleurs rendements, c'est ce qu'on espère. Voilà.
C'est aussi le climat nous joue des tours.
Voilà, mais c'est aussi une plus forte résilience au changement climatique. En fait, c'est de travailler avec la nature et pas contre la nature. Donc, c'est refaire revenir la nature dans les champs, là où sont cultivés, et travailler avec elle pour, en tout cas, produire une alimentation.
Et surtout, ce qui est bon, je crois qu'il manque encore un pilier quand même, on va finir avec le troisième.
Et le troisième pilier, au-delà en tout cas de faire grandir la biodiversité, ce qu'on appelle nous, c'est chérir la biodiversité, c'est soutenir des projets de restauration des écosystèmes. Et c'est là que notre fondation intervient.
Ok, donc vraiment, le pilier, c'est cette biodiversité, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai un autre pilier qui est comment est-ce qu'on va réduire l'impact, enfin l'empreinte, puisque forcément, quand on est une marque, quand on est un groupe, on produit des choses, donc on crée... des émissions CO2, etc. Et comme j'imagine que vous exportez, que vous avez des packaging, comment est-ce que vous arrivez à réduire, à minimiser cette empreinte carbone?
Alors déjà, on la mesure.
Arrivez à bien la quantifier?
Oui, on mesure nos émissions carbone depuis 2012, je crois, ou 2010. Voilà, ça fait un certain nombre d'années. Le scope 3 est hyper important pour nous, parce que 90% de nos émissions sont liées au scope 3.
Ça ne m'étonne pas.
Et dans ce scope 3, on a 80% de nos émissions qui sont liées à nos matières premières agricoles. Et donc, en travaillant sur des meilleures pratiques agroécologiques pour essayer de faire venir la biodiversité, en même temps, on arrive à diminuer notre empreinte carbone. Parce que quand vous plantez des haies, par exemple, à la fois, ça fait revenir les oiseaux et à la fois, ça séquestre en fait le carbone.
Donc, tout ça est lié. Pourquoi ça le séquestre?
Les arbres, ça a cette capacité de séquestrer le carbone. Donc, il faut remettre des arbres, remettre des haies. Et à la fois, vous allez faire revenir la biodiversité. Et à la fois, vous allez réduire, en tout cas, votre empreinte carbone.
Parce que c'est les arbres qui font peser l'empreinte...
Les arbres, ils aspirent le CO2.
Dans tout ce qui est logistique, parce qu'il y a quand même des packaging, etc., tout ça, vous travaillez aussi dessus ou c'est chacune des marques qui doit piloter
Non, on travaille d'un point de vue groupe, on a un engagement sur nos packaging, mais c'est juste pour remettre un peu l'église au milieu du village. Voilà, par exemple, le packaging, je crois que c'est 7% de nos émissions carbone. Sauf que c'est la phase vraiment visible, en tout cas, pour le consommateur.
Et puis, le consommateur qui achète bio, en général, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Voilà. Donc, s'il arrive avec plein de plastique,
c'est son geste quotidien. Exactement. De se dire, ça, je le mets dans quelle poubelle? Et c'est recyclable, pas recyclable. Donc ça, on a un engagement d'avoir 100% de nos emballages qui seront recyclables d'ici 2025. Donc, on est en bonne voie, mais c'est un gros, gros chantier.
Voilà. C'est quoi ce qui reste compliqué à changer comme emballage?
Alors, ce qui reste compliqué à changer, c'est majoritairement sur nos biscuits, ces fameux pochons individuels, vous savez.
Parce qu'on a eu la boulangère récemment dans l'empreinte. Donc, pareil, il nous en parlait. Apparemment, il y a quand même des innovations qui sont en train d'émerger. Donc, je pense que tout le monde, vous allez tous vous tirer vers le haut une fois que ce sera lancé, cette innovation.
Exactement. De toute façon, c'est toute la filière économique qui avance. À la fois les filières de recyclage. On a aussi des filières de recyclage qui se montent, qui arrivent aujourd'hui à recycler des types de matériaux qu'on n'arrivait pas à recycler auparavant. Et à la fois, on a une évolution sur les matériaux. Donc, on est confiant, en tout cas, sur le fait d'y arriver. Mais... aujourd'hui, le bio, c'est 6% de la consommation alimentaire. Donc, on a on reste quand même petit. Et notre force, en tout cas, d'action auprès de ces grands fournisseurs d'emballage, etc., elle reste aussi assez limitée. Donc, il faudra qu'on bouge tous ensemble pour arriver à faire bouger, en tout cas, les emballages.
Et pourquoi ne pas... Parce qu'on le voit, hein, quand on va acheter, notamment au magasin bio, et même de plus en plus de retailers le font, du vrac. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas proposer ces biscuits en vrac? Certes, la durée de la date limite de consommation sera beaucoup plus réduite, mais est-ce qu'on ne pourrait pas éduquer le consommateur un peu à acheter ce dont il a besoin en temps réel, dirons-nous. Ce serait pas une perspective intéressante aussi?
Alors si, mais on a beaucoup de freins sur le vrac, sur la casse.
Oui, mais les biscuits cassés, c'est comme les fruits et légumes moches. Au final, c'est pas grave, c'est toujours aussi bon.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a des freins à lever, nous, d'un point de vue technologique, au niveau de la casse, au niveau de la conservation du produit, au niveau de la conservation de ses qualités nutritionnelles, organoleptiques, etc. Et on a une attente forte des consommateurs. Donc,
parce que je pense qu'ils sont preneurs, hein. Les consommateurs de plus en plus, hein, on le voit, hein, le rayon vrac. Et alors après, il y a le côté pratique des petits emballages qu'on emmène, parce que c'est vrai que quand là j'ai Björg bien en tête avec les micro sachets qu'on peut donner pour le goûter ou autre. Mais finalement, si la maman elle va acheter ses 3-4 biscuits en vrac et qu'elle les met dans un pochon en papier kraft, c'est tout aussi.
Ça nécessite beaucoup d'éducation, en tout cas, des consommateurs.
Et ça peut pas être le rôle, justement, d'entreprises comme vous, d'éduquer et d'accompagner les consommateurs vers une consommation plus responsable?
Si, mais ça prend du temps.
Bien sûr.
On a toujours une frange de consommateurs qui demandent d'avoir des pochons individuels. Quand on supprime et qu'on met en barquette, on a beaucoup de réclamations conso aussi sur le manque de praticité. Voilà, tout ça,
oui,
ça
mais
nécessite...
C'est les mêmes qui vous disent « Oui, mais par contre, c'est encore du plastique. » Bah oui, trouve-nous la solution. Enfin, c'est ça le problème, voilà. C'est que souvent, c'est une schizophrénie de la population.
Donc, on avance pas à pas, voilà, l'emballage c'est un sujet complexe, on avance pas à pas, mais on avance.
Et le transport?
Alors le transport, c'est pareil, c'est assez faible en tout cas dans notre empreinte carbone, on y travaille, on réduit en tout cas les émissions carbone liées à nos transports, en travaillant à la fois sur le fait de jamais, par exemple, rouler avec des camions vides,
optimiser l'espace utilisé.
Exactement, sur des transports, ce qu'on appelle intermodaux, donc train-route, etc., qu'on combine. Donc là-dessus, on a tout un plan, en tout cas, de réduction des émissions carbone sur notre supply chain.
Et il n'y a pas d'exportation, du coup, de ces marques à l'étranger?
Alors, on a des marques qui circulent, en tout cas. Par exemple, la marque Clipper, elle vient d'Angleterre, elle est aussi vendue en France. Mais on n'a pas de...
C'est assez national.
Ça reste très européen.
Très européen.
Voilà, ouais. On n'a pas de transport en avion, on n'a pas tout ça.
Ok, c'est d'où l'empreinte plus minimaliste sur les transports.
Exactement.
Et donc, toi, c'est quoi encore? C'est quoi aujourd'hui tes plus grosses limites, en fait?
Alors, mes plus grosses limites...
Comme tu es quand même responsable de la RSE, tu dois avoir des combats.
Alors, les combats, ils sont clairs. Hein. C'est autour de la biodiversité. Après, c'est la frustration, peut-être, de parfois de ne pas aller assez vite sur certaines choses.
Surtout quand tu vois les rapports du GIEC, etc., et te dire, on est en plus au centre, on est acteur, quoi.
Donc, nous, sur les pratiques agricoles, on voudrait aller plus vite, mais ça prend du temps. D'abord, ça prend le temps agricole.
Bien sûr.
Avez beau planter une haie, le temps qu'elle soit efficace, qu'elle capte bien le carbone, etc., il se passe quand même plusieurs années. Et puis, c'est toute une chaîne, en tout cas, embarquer nos producteurs dans ce combat-là aussi. Bah, ça prend du temps, il faut les soutenir, les accompagner. Voilà, donc on a un temps qui est incompressible, qu'on aimerait parfois accélérer.
Mais c'est une demande qui augmente, je pense, quand même, le bio.
Ah oui.
T'as des chiffres là à me donner pour l'évolution de la conso?
Alors, le bio, je crois qu'il a doublé en 5 ans. Le marché du bio,
il
continue à croître. On a eu une vraie prise de conscience qui s'est renforcée avec le Covid, lors du premier confinement.
Et plus la demande augmente, plus les prix baissent aussi, j'imagine.
Alors, on a un effet d'échelle. Après...
Pas vraiment,
dans le sens où, c'est ce que je disais, le bio, c'est 6% de la consommation alimentaire. Donc, ça reste tout petit. Vous avez encore 94% d'alimentation conventionnelle et d'agriculture conventionnelle à côté.
Mais c'est tellement triste de ne pas pouvoir rendre ça inclusif, le bio, parce que c'est quand même finalement une partie de la population déjà aisée qui a le droit de choisir ce qu'elle met dans son organisme, quoi. Il faut que le consommateur continue à acheter bio et évangélise le bio. Alors, en effet, pour ceux qui ont moins les moyens, on n'est pas obligé de tout acheter bio parce qu'il y a des produits qui sont pas pleins de pesticides, etc. Il y a des choses incontournables à acheter en bio, notamment les produits bruts, j'imagine. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, à un consommateur qui aimerait acheter les produits bio et qui n'a pas les moyens?
Alors, pour un consommateur qui n'aurait pas les moyens de consommer bio, on s'aperçoit que dans les nouveaux entrants sur le marché bio, on n'a pas forcément que des catégories socio-professionnelles élevées. On a aussi de plus en plus de gens, de jeunes, qui viennent au bio et qui, du coup, font des arbitrages aussi.
C'est vrai qu'on peut moins consommer de trucs débiles et acheter
Exactement.
Plus de choses qui ont du sens.
Et surtout, quelque chose qui est clé, c'est de moins acheter de viande. Ça, vous faites d'une pierre deux coups. Vous rééquilibrez votre budget alimentaire et surtout, vous faites du bien à la planète puisque aujourd'hui...
C'est vrai que finalement, voilà, j'ai encore Björk en tête, c'est vraiment... Mais bon, c'est un repas végétal, c'est le même prix qu'une côte de bœuf, non ? Même moins cher.
Ah bah, c'est beaucoup moins cher. Ah oui, c'est beaucoup
même
moins cher.
Même un repas tout fait pour l'étudiant ?
Ah oui,
j'ai aucune.
Alors moi j'ai pas les prix
en cuisine,
tête.
Mais... Je cuisine, c'est pour ça que.
Côte de bœuf de mémoire, c'est extrêmement cher.
Moi, je suis végie, donc je ne sais pas du tout. Oui, donc en fait ça leur permettrait vraiment de baisser quand même en prenant l'alternative végétale. Ouais. Et comment alors il y a aussi toute une polémique autour du soja. Est-ce que faut vraiment le bannir complètement ou est-ce que on peut en manger, mais bon, pas tous les jours, comme tout, en fait, il faut diversifier.
Alors, moi, je ne suis pas experte hein, sur les aspects santé, mais la polémique de mémoire, elle était liée à la consommation.
Apparemment, ce n'est pas très bon. D'en manger trop, même pour la santé, ce n'est pas très bon. Et bien sûr, encore une fois,
Pour la planète, aujourd'hui, on trouve du soja, et c'est ce qu'on a chez nous, qui vient de France et d'Italie. Hein, oui. Donc, il ne vient pas forcément d'Amérique du Sud. Donc ça, déjà... Ça s'est réglé. Et ensuite, pour la santé, les études qui avaient été faites étaient sur des consommations de soja astronomiques.
Oui, mais tous ceux qui remplacent tout par du soja, ça va vite. Hein.
Non, vous n'étiez même pas à ces niveaux-là.
OK, donc en fait, ça va. Bon, mais avec modération, comme tout, faut varier.
Voilà.
Et déjà, et même pour ceux qui mangent de la viande quotidiennement, tentez. Il y a plein de trucs qui ont du goût, qui n'ont pas le goût de soja, parce que je pense que les gens ont peur de ce goût. Et ça peut les embarquer vers une consommation plus responsable, c'est intéressant.
Mais il existe toute une diversité de céréales et légumineuses à tester qui apportent du goût.
Et des protéines. Parce que c'est important d'avoir toujours ça, son apport de protéines. Et une supplémentation en B12, par contre, à côté, parce que ça, on ne l'a pas dans les produits animaux. Enfin, on l'a que dans les produits animaux, justement. On ne la retrouve pas...
Je ne suis pas diététicienne, je ne pourrais pas m'avancer sur ce sujet.
C'est ma petite touche, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent arrêter de manger de la viande ou autre, il faut quand même se renseigner. Renseignez-vous, voilà. N'écoutez pas juste l'empreinte, allez vous renseigner.
Exactement.
Mais c'est intéressant. Donc, les prochains challenges. C'est quoi tes prochains challenges ?
Alors, les prochains challenges, c'est de mener à bien notre feuille de route. Voilà.
Tiens, objectif, tu m'as dit 2025, c'était...
Nous, on s'est fixé des objectifs jusqu'à 2030. On est sur, quand on pilote une feuille de route RSE, on est sur des temps qui sont quand même longs parce que ça demande une transformation assez importante.
Mais 2030, aujourd'hui, ça nous paraît long parce qu'on a des urgences. Mais il y a quelques années, on prenait des engagements sur 2000. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit réduire notre temps, quoi.
Exactement. Donc nous, on a une feuille de route à 2030. On est concentré dessus. Et les prochains challenges, c'est surtout d'arriver à délivrer ce qu'on s'est inscrit en termes d'engagement. Donc d'arriver vraiment à faire grandir la part du bio, faire grandir la part d'ingrédients diversifiés dans nos recettes, faire grandir nos pratiques agricoles. Là-dessus, on va pousser.
Top. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à ajouter ?
Un mot de la fin à ajouter ?
Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas évoquées avec toi et que tu aurais aimé ajouter ?
Alors, nous, cet engagement pour la biodiversité, il est quand même assez pionnier, on se rend compte. C'est-à-dire que quand on parle de biodiversité, tout le monde pense à la biodiversité extraordinaire. Donc, tout le monde va s'inquiéter de la disparition du panda, de la panthère du Tibet.
Et des abeilles. Moi, il y a un truc sur les abeilles.
Et voilà. Et quand même, on arrive quand même sur les abeilles. Mais c'est vrai que cette perte de biodiversité, elle touche principalement la biodiversité ordinaire. Ça se passe à côté de chez nous, dans nos campagnes. On a perdu 80% des insectes en Europe en 30 ans.
Bon, si c'est les moustiques, c'est pas très grave. Hein.
Non, les insectes, tous ceux qui rendent aussi des services écosystémiques. On a perdu un tiers de nos oiseaux de campagne. Alouette, gentille alouette. Bientôt, on la verra plus, l'alouette.
Oh,
et du coup, il y a une prise de conscience, à développer chez les citoyens que cette perte de biodiversité, elle est liée à notre alimentation, elle est liée à ce qu'on met dans notre assiette, à la fois à l'agriculture conventionnelle, à l'utilisation intensive de pesticides, etc., mais aussi à l'élevage intensif, qui en tout cas agit sur la déforestation en Amérique du Sud. Donc tout ça est lié, contribue à une érosion de la biodiversité, et qu'en tant que citoyen, on a le pouvoir aussi d'agir sur la biodiversité, sur celle qui est juste à côté de chez nous, qu'on peut voir tous les jours en faisant les bons choix alimentaires.
Oui, et puis comme tu le rappelais, acheter bio, ce n'est pas forcément se priver. En fait, on se rend compte quand même dans des foyers qui n'ont pas forcément les moyens. Ils achètent en quantité des choses qui n'ont pas, qui sont peut-être savoureuses au goût, mais qui n'ont aucun avantage nutritionnel ni sur l'écologie. Donc, ceux qui sont engagés, ou du moins, si ces sujets-là vous parlent, c'est accessible, en fait. Renseignez-vous, et puis il y a toujours des magasins bio, il y a du vrac, on peut s'y retrouver.
Exactement. Diversifier votre alimentation.
Merci beaucoup, Émilie.
Merci, Alice.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.